VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Bion, il est 13h à Kigali. Bonjour à tous. Les forces alliées au gouvernement libyen ont repoussé aujourd'hui des combattants rivaux engagés dans une offensive pour prendre la capitale Tripoli. Hier, les forces pro-Haftar avaient lancé une offensive pour prendre la capitale Tripoli où siège le gouvernement d'Union nationale, le GNA, dirigé par M. Sarraj et reconnu par la communauté internationale. M. Sarraj a ordonné à ses forces et milices alliées de les repousser et face au risque d'embrasement, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui à la demande du Royaume-Uni pour discuter de la Libye après des appels internationaux à retenir selon des diplomates. Claire Morin-Gibou.
Le communiqué diffusé par le département d'État américain est très clair. Les gesticulations militaires et les menaces d'action unilatérale risquent seulement de replonger la Libye dans le chaos. Les gouvernements français, anglais, américain, italien et émirati affirment toujours dans ce communiqué qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit libyen. Ils s'opposent à toute action militaire et tiendront pour responsable toute faction libyenne qui attisera le conflit civil, tout en réaffirmant leur soutien à l'ONU pour résoudre la crise. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a ordonné hier à ses forces d'avancer en direction de la capitale Tripoli, siège du GNA, le gouvernement d'Union nationale.
Les Algériens, malgré la démission du président Bouteflika, entendent manifester à nouveau en masse aujourd'hui pour un septième vendredi consécutif afin de chasser le système du pouvoir et empêcher les anciens fidèles du président déchu de gérer la transition. Les contestataires réclament à la place la mise sur pied d'institutions de transition à même de réformer le pays et d'organiser notamment un cadre juridique garantissant des élections libres. Au Mali, les jeunes des localités de Bandiangara, Banka, Sekoro ont marché hier. Ils étaient, selon les organisateurs, des centaines à manifester pour demander la sécurité pour les populations et leurs biens en pays Dogon. Cette manifestation fait suite au massacre d'Ogo-Sagou et aux récentes attaques dans leurs différentes localités. Compte rendu, Kassim Traoré.
Rappeler à l'État sa responsabilité exclusive par rapport à la sécurisation du pays Dogon, non à l'insécurité, oui à la protection de tous, telles sont entre autres raisons de ces marches selon Adama Djonko, porte-parole du collectif des associations du pays Dogon. À Bandiangara, il y a eu 1000 personnes avec une ville morte. Des commerces, l'administration, tout était fermé. Koro a enregistré la participation de 200 jeunes. La ville était totalement paralysée. À Bankas, toutes les communes étaient représentées et la ville était aux arrêts. Ajoute Adama Djonko. Ce 4 avril 2019, les jeunes du pays Dogon sont sortis massivement et de façon synchronisée afin de crier haut et fort leur ras-le-bol contre l'insécurité, les violences, les amalgames ainsi que les stigmatisations qui sont devenues depuis 2012 leur quotidien. Avant ces marches, l'intervention des hélicoptères d'attaque des forces armées et de sécurité après le coucher du soleil a permis de mettre un terme à une attaque lancée par les hommes armés non identifiés contre les villages de Tegrou, Ogo-Sagou, Kobadje, tous dans le pays Dogon, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous suivez VOA Afrique. Au Botswana, le parti au pouvoir, depuis plus d'une cinquantaine d'années, se réunit en congrès à partir d'aujourd'hui pour élire son candidat à l'élection présidentielle d'octobre dans un pays considéré comme l'une des plus solides démocraties du continent. Cette réunion du Parti démocratique du Botswana, BDP, sera le théâtre d'un duel inédit entre l'actuel chef de l'État, Modgwisi Masisi, et son prédécesseur, Yann Kama. Plus d'un millier de délégués du parti sont attendus pour choisir leur candidat aujourd'hui et demain dans la petite ville rurale de Kang, à 400 km au sud-ouest de la capitale Gaborone. Le président de la RDC poursuit sa toute première visite officielle aux États-Unis après avoir rencontré mercredi le secrétaire d'État Mike Pompeo. Il s'est entretenu hier avec des membres du Congrès et aussi le directeur adjoint de la CIA. Que traduit cette visite dans les relations entre Washington et Kinshasa? Eddie Sango a joint l'un des chargés de communication du président Xi Jinping. Tshisekedi. Il se nomme Valérie Giscard Kousséma.
Tout avait commencé avec le secrétaire à l'énergie, M. Rick Perry. Tout le potentiel de la République démocratique du Congo, les échanges ont porté essentiellement sur le projet Inga, dont on dit qu'il est le plus grand et qui peut alimenter une bonne partie du continent africain. La deuxième personnalité officielle à recevoir les chefs de l'État, c'est le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. M. Nagy, au nom de l'administration américaine, a fait une très grande déclaration pour dire que 2019 est l'année de la République démocratique du Congo. Et il a justifié toutes les raisons de ce couronnement, tous les faits et gestes posés par les chefs de l'État depuis son avènement. Il a parlé de la lutte contre la corruption, de la liberté d'expression, de tous ces efforts qui sont entrepris, les relations diplomatiques, la normalisation avec le pays voisin, son élection à l'Union africaine comme deuxième vice-président. L'autre personnalité la plus importante, c'est aussi M. Pompeo, qui est le chef du département d'État. Et là également, les communiqués sortis du département d'État montrent qu'il y a une grande satisfaction pour les États-Unis par rapport à tout ce qui a été fait par le chef de l'État depuis son avènement. Il a été avec les sénateurs Nofi, tout le monde le sait, c'est le responsable de la commission de l'armement et des armées, mais surtout c'est lui qui organise toutes les journées nationales de prière au mois de février de chaque année. Les présidents américains, tout son gouvernement, les parlementaires viennent participer pour glorifier Dieu d'avoir fait des États-Unis la première puissance mondiale.
Qu'est-ce qu'on peut dire des relations entre les États-Unis et la RDC?
Il y a un pas de plus qui est fait. La première symbolique, c'est d'abord le fait que ce soit le premier pays, et c'est la première puissance mondiale, qui s'est exprimé clairement sur l'élection du chef de l'État, pendant que d'autres pays hésitaient encore.
Qu'est-ce qui change par rapport à ce qui était depuis quelques temps?
D'abord, l'acceptation même. Vous le savez, qu'il y a beaucoup de personnes du régime sortant qui sont sous sanctions américaines et qui ne peuvent pas venir ici, en dehors de tout ce qu'il y avait comme réunion protocolaire. Mais ce qui change, c'est aussi cette volonté des investisseurs américains de pouvoir venir en République démocratique du Congo. Hier, le chef de l'État était devant la Chambre du commerce. En tout cas, cela est repris également dans un communiqué officiel du département pour dire que tout ce qui s'est fait, c'est pour le bien du peuple congolais.
Valérie Giscard Kousséma, membre de la délégation du président congolais Félix Tshisekedi, en visite à Washington. Le Rwanda marque dimanche le 25e anniversaire du génocide de 1994 et ses 800 000 morts essentiellement parmi les Tutsis. Accompagné de dignitaires invités, surtout africains, le chef de l'État rwandais Paul Kagame va allumer le matin une flamme du souvenir au mémorial de Gisozi à Kigali. Puis, dans l'après-midi, il va prononcer un discours lors d'une cérémonie au stade à Mahoro. Cette journée ouvrira une semaine d'activités en liaison avec la mémoire du génocide, fête d'échanges et de réflexions sur des thématiques diverses et de programmes de sensibilisation dans tout le pays, ainsi qu'un deuil officiel de 100 jours. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui un renforcement des moyens judiciaires et policiers pour accélérer d'éventuelles poursuites à l'encontre de personnes suspectées d'avoir pris part au génocide des Tutsis au Rwanda qui se trouverait en France. Les États-Unis ont révoqué le visa de la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, de nationalité gambienne, a annoncé aujourd'hui le bureau de Madame Bensouda en raison d'une possible enquête sur des exactions de soldats américains en Afghanistan. Fatou Bensouda avait annoncé en 2017 qu'elle allait demander au juge l'autorisation d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés commis dans le cadre du conflit afghan, notamment par l'armée américaine. Et puis, la première ministre britannique Theresa May a demandé un report du Brexit jusqu'au 30 juin dans une lettre envoyée aujourd'hui au président du Conseil européen Donald Tusk. La chef du gouvernement anglais informe dans cette lettre Donald Tusk que le Royaume-Uni demande une extension de l'article 50 du traité de Lisbonne qui régit le départ d'un État membre de l'Union européenne et propose que ce report se termine le 30 juin 2019. Donald Tusk a suggéré quant à lui un report flexible allant jusqu'à 12 mois selon un haut responsable européen. On termine avec la Chine et les États-Unis. Le président chinois Xi Jinping a appelé à la conclusion rapide des négociations sur le prochain accord commercial entre son pays et les États-Unis, a rapporté aujourd'hui l'agence officielle Chine Nouvelle. Cette déclaration est intervenue à un moment où les spéculations abondent quant à l'approche de la conclusion d'un accord entre les deux parties visant à mettre un terme à 9 mois de guerre commerciale entre les deux premières économies mondiale. L'appel de M. Xi était compris dans un message transmis par le vice-premier ministre chinois Liu He à son homologue américain Donald Trump lors de leur rencontre à Washington. Point final à ce journal. Le prochain, c'est seulement dans 50 minutes. Soyez des nôtres. Il vous sera présenté par Harry Francis. Bon après-midi et bon week-end à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.